Alors, le temps que ça se règle, je suis très content d'être là, même si je ne connais pas tout le monde. Enfin, il y a certains que on se souvient, et ça fait vraiment drôle de revenir dans l'église des années après comme ça. Hein. Et je suis content de voir que le Seigneur travaille et qu'il y a des nouvelles personnes qui viennent comme ça, qui se convertissent. Et moi, ça m'encourage vraiment. Alors, Adrien a dit tout à l'heure que c'est vrai, ce soir, on va faire quelque chose d'un peu compliqué. Alors, si vous n'avez pas compris, vous irez voir Adrien tout à l'heure. Hein. Comme ça, il vous expliquera. On va voir s'il a bien compris, lui. Et on va parler d'eschatologie. Alors, quelqu'un sait ce que ça veut dire, eschatologie? Alors, ceux qui savent, ils se taisent, mais peut-être les autres. C'est un mot qui est composé en deux parties, on pourrait dire. Eschatos, c'est-à-dire les choses à venir. Et logos, en grec, hein, ça veut dire la parole ou la doctrine. Donc, en fait, on va étudier pendant les 4 jours la doctrine des temps à venir. Avec un PowerPoint qui ne veut pas marcher. Enfin, ça va être compliqué, hein. Et la question qu'on peut commencer à se poser, hein, en introduction, c'est pourquoi est-ce qu'il faudrait étudier l'eschatologie? Pourquoi il faudrait prendre le temps de s'arrêter dans la Bible et d'étudier les choses à venir? Alors, il y a deux choses qu'on peut déjà voir dans l'eschatologie. Il y a ce qu'on appelle l'eschatologie personnelle. On ne va pas le faire aujourd'hui, mais il y a des choses qui me concernent en tant que chrétien ou non chrétien et ce qui va se passer plus tard pour moi, quand je meurs, par exemple. Mais nous, on va plutôt s'intéresser à l'eschatologie générale, c'est-à-dire à ce qui va se passer dans le monde. Alors, tout à l'heure, Gilbert demandait la date du retour de Jésus. Vous ne l'aurez pas ce soir. Hein. Non, je n'ai pas mis en première page. Pas d'hérésie ce soir. Hein. On ne va pas donner de date, on ne va pas cibler des gens, mais la Bible donne quand même quelques éléments. Et c'est ce que j'ai envie de faire, hein, parce que je ne veux pas aller au-delà de ce que la Bible va dire. Parce que je suis très prudent. Il y en a qui le font, mais pas moi. Donc pourquoi étudier l'eschatologie? Ça va plus vite que moi maintenant. Ah, c'est très utile de l'étudier, tout particulièrement aujourd'hui, à notre époque. Je ne sais pas si vous vous intéressez un peu à ce qui se passe dans le monde, mais il y a énormément de choses qui se mettent en place. L'Europe, ça fait déjà un petit moment. Jérusalem, ça bouge beaucoup. On va en reparler un peu plus tard. On ne va pas rentrer trop dans le détail, mais la première des choses, on pourrait dire, c'est parce que la Bible m'en parle. Vous avez déjà lu l'Apocalypse? Vous avez tout compris? Oui, Gilbert, je n'ai plus rien à apprendre, moi. La Bible nous en parle. Dans l'Apocalypse, dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, elle en parle quasiment partout. Et donc, si la Bible m'en parle, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui m'est destiné, ou au moins quelque chose que j'ai à comprendre. Donc c'est important de me dire, Dieu veut me parler au travers de sa parole et veut me dire quelque chose. Ensuite, parce que j'ai besoin aussi de systématiser ma pensée. Si je vais dans Ésaïe, je vais voir des prophéties pour l'avenir, pour Israël par exemple. Si je vais dans Apocalypse, je vais voir certaines choses. Je vais aller dans Thessaloniciens, dans 1 Corinthiens, je vais voir des choses. Et à un moment, ça devient, ça fait mal à la tête. Et l'idée pour moi, c'est mettre un peu de l'ordre dans tous ces événements. Alors c'est assez ardu, hein, je le reconnais, mais venez me voir après si vous n'avez pas tout compris. Ensuite, une autre idée d'étudier cela, c'est qu'aujourd'hui, on peut être emporté à tout vent de doctrine. Tout à l'heure, Gilbert faisait par ironie l'idée de donner une date, mais vous savez que les témoins de Jéhovah ont donné des dates du retour de Jésus, et il y en a encore qui le font, et c'est jamais arrivé. Et il y a beaucoup de gens qui font des fausses doctrines. Et donc, c'est bien de s'arrêter un moment, nous, et de faire le point aussi ce que dit la Bible. Et puis en même temps se réjouir de se dire que la Bible, elle est différente de tous les livres parce qu'elle est prophétique. Hein, je ne sais pas, vous avez déjà vu une prophétie dans la Bible qui s'est réalisée?
La naissance de Christ.
C'est déjà pas mal, hein? Sa mort, etc. Donc la Bible dit vrai. Et elle a dit vrai, on va voir, pour le passé, et elle dit des choses pour l'avenir. Et donc, ça veut dire que ça va se passer de la même manière. Hein, on va voir tout cela. Et moi, en voyant ce qui s'est déjà réalisé, je me réjouis de savoir que Jésus est venu, que ça s'est réalisé réellement, mais qu'il dit aussi qu'un jour il va revenir. Et donc, est-ce que ça vous réjouit de savoir qu'un jour Jésus va revenir? Vous cherchez? Ouais, un peu, hein. Ça devrait vraiment nous réjouir. On devrait en attente. Alors, il y a aussi des erreurs à éviter quand on étudie l'eschatologie, hein. Alors, il y a beaucoup de tentations, on peut faire des dérapages très rapides, mais j'irai jamais interpréter au-delà de ce que me dit la Bible. Parce qu'on peut à un moment essayer de mettre des noms, des dates, on peut faire un tas de choses. On ne va pas aller plus loin que cela. Hein. Ça, c'est important. On ne va pas fixer une date, comme on l'a dit tout à l'heure, du retour de Jésus ou de certaines choses. Et en même temps, on va avoir beaucoup d'humilité. On ne va pas prétendre tout comprendre. Vous allez voir qu'au bout de 4 jours, vous allez avoir une tonne de questions qui vont commencer à venir, qui vont surgir, et je ne vais pas pouvoir répondre à toutes les questions non plus. Il faut avoir de l'humilité. Hein. Donc on va se focaliser juste sur ce que dit la Bible, mettre un peu de l'ordre dans tout cela, mais on ne va pas aller plus loin. À moins qu'Adrien ait eu une prophétie depuis, mais je ne pense pas. Hein. Voilà. Donc, voilà pour introduire. Quand on étudie l'eschatologie, on va voir quelques postulats de départ. D'abord, il faut se dire, la Bible est vraie. Où la prophétie est vraie, bibliquement. Elle s'est réalisée, et donc ça démontre que c'est vrai. De toute façon, un vrai prophète, c'est quelqu'un qui dit quelque chose qui va se réaliser. Sinon, ce n'est pas un prophète, hein, selon la définition biblique. Et une deuxième chose, c'est que... un deuxième postulat, c'est qu'il faut voir comment interpréter la Bible. Hein, parce que si on va dans l'Apocalypse, c'est compliqué. On est bien d'accord, hein, c'est pas toujours simple. Et si on n'a pas quelques clés, c'est très difficile de tout comprendre. On va voir ce premier postulat, d'abord, la véracité de la prophétie biblique. On voit dans la Bible ce qu'on appelle, nous, les théologiens, un accomplissement littéral des prophéties. Si vous regardez un peu dans l'Ancien Testament, il y a 17 livres sur 39 qui parlent de prophétie. Vous croyez que c'est important ? Pas qu'un peu. Ensuite, on voit que ces prophéties de la Bible, pour la plupart pour l'instant, se sont réalisées, d'autres encore attendent leur réalisation. Les prophéties qui se sont réalisées, on n'a pas besoin de le prouver, puisque ça s'est fait. Jésus est né, Jésus est mort sur une croix, Jésus a donné sa vie pour qu'on puisse être sauvé. J'ai pas à le démontrer, c'est fait, à moins qu'on veuille être vraiment de mauvaise foi. Mais par contre, il y a beaucoup de prophéties, je pense surtout à l'Ancien Testament, qui ne se sont pas réalisées. Par exemple pour Israël, on verra un peu ces choses-là au fur et à mesure. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore réalisées pour eux. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que chaque fois qu'il y a une prophétie et qui s'est réalisée, ça s'est accompli de façon littérale. Hein. Jésus a dit « Je viendrai un jour », il est venu vraiment. Ce n'est pas une allégorie, ce n'est pas une métaphore. Il est vraiment venu. Et ça va être important, vous allez comprendre pourquoi j'insiste un peu là-dessus. Quand on voit un peu les caractéristiques de la prophétie biblique, le sujet principal des prophéties, ça concerne souvent Jésus. Hein. De toute façon, la Bible concerne Jésus du début à la fin. Même dans la Genèse, ça commence déjà. Puis ça finit avec Apocalypse. Les prophètes ont cherché à comprendre les prédictions, mais ils n'avaient pas encore toute la parole non plus. On voit par exemple dans 1 Pierre que les anges ont essayé de plonger leur regard pour essayer de comprendre la venue de Jésus et certaines choses. Ils n'avaient pas encore tout. Vous savez, nous on a la chance parce qu'on a la Bible au complet. Si vous étiez dans l'Ancien Testament, il vous manquait une partie de la révélation. Donc nous on a la chance aujourd'hui d'avoir la Bible et de pouvoir étudier tout et de, on va dire, presque tout comprendre, parce qu'on ne va pas tout comprendre. Hein. Mais à l'époque, ils n'avaient pas le regard que nous avons. Et c'est pour ça que ça doit être encourageant pour nous de lire davantage la Bible pour mieux connaître qui est Dieu, qui est Jésus-Christ et ce qu'il veut pour chacun d'entre nous. Dans 2 Pierre 1,19, il est dit que nous sommes appelés à tenir compte de ces prophéties. Ce soir, on va pas parler de l'eschatologie juste parce qu'on veut en parler. Il faut faire attention, il faut en tenir compte, c'est sérieux. Dieu veut qu'on y attache une certaine importance. Et Pierre nous avertit également qu'aucune prophétie ne peut être un objet d'interprétation particulière. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit de dire n'importe quoi sur ce que j'ai... Moi, j'ai déjà entendu beaucoup de choses, ça a dérapé complètement. Le second postulat, donc, c'est ce système d'interprétation de la prophétie biblique. Hein. L'idée, globalement, parce que c'est des grands mots, mais quand je lis la Bible, comment je dois l'interpréter, comment je dois la comprendre? On voit que la Bible, on doit la lire avec une interprétation littérale et symbolique de cette prophétie. Alors, il y a plusieurs manières d'interpréter la prophétie. Nous, on va accepter, comme on l'a dit, cette interprétation littérale. Ça ne veut pas dire que dès qu'il y a écrit quelque chose, il faut le prendre de façon littérale. On va aussi accepter là-dedans que vous avez déjà vu qu'il y a des livres d'histoire, Chroniques, Les Rois. Il faut replacer les choses dans le contexte. Il y a de la poésie, hein, Ecclésiaste, Cantique, etc. On ne peut pas tout prendre à l'aide non plus. Il faut voir qu'il y a de la poésie. Il y a des prédications. Il y a plusieurs façons d'aborder le sujet. Et il faudra en tenir compte aussi dans notre façon d'interpréter. Mais globalement, on restera avec une interprétation littérale. Hein. Vous comprenez l'idée de littéral. C'est par opposition à se dire, tiens, un texte dit quelque chose. Je vais essayer de deviner, d'allégoriser cette chose-là, mais ce n'est pas quelque chose qui va vraiment se passer. Par exemple, quand Jésus dit qu'il va revenir bientôt, ce n'est pas vrai, il est peut-être déjà là, il y en a qui le disent hein, de façon spirituelle, etc. Non, littéralement, Jésus reviendra, il dit dans Zacharie, il posera ses pieds sur le mont des Oliviers, et là, il va y avoir beaucoup d'événements qui vont se passer, et le monde entier, c'est marrant parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas imaginer ça, sur son petit téléphone, sur Facebook, Jésus est là, like. On va voir ça, non ? Enfin, les chrétiens ne seront plus là, on va voir ça. Donc, un premier sens littéral, par exemple, dans les prophéties, peut cacher aussi, par exemple, un sens figuré ou spirituel. Je ne sais pas si vous avez vu, dans l'Ancien Testament, il y avait un rocher qui suivait le peuple d'Israël, hein, le rocher d'Horeb, que Moïse va frapper pour avoir de l'eau, qui représente aussi Jésus-Christ, qui est frappé au calvaire. Hein, vous avez les références, si vous voulez. Par exemple, la manne qui a été donnée aux Israélites dans le désert était aussi un type de Christ qui allait venir, qui dit lui-même « Je suis le pain descendu du ciel ». Donc il faut tenir compte de toutes ces façons de voir dans la Bible. On peut trouver aussi un sens littéral et un sens symbolique, par exemple, dans les prophéties. Hein. Par exemple, dans le psaume 22, on voit toute la souffrance de Jésus-Christ sur la croix, hein, qui est prédite là. Et puis, il a été méprisé, il a été bafoué par le peuple. Et puis, en même temps, l'auteur, ben, il va dire, il y a de nombreux taureaux qui sont autour de moi. Il va employer un peu l'aspect poétique pour décrire la souffrance de Christ à ce moment-là sur la croix. Mais littéralement, Christ est mort sur la croix. C'est juste une autre façon de dire la chose. Je ne sais pas s'il y a des poètes ici. Ils aiment bien écrire. On parle de choses vraies, mais avec des images, des belles images généralement. Et c'est ce que fait des fois la Bible aussi. Il faut en tenir compte. Notre interprétation concerne aussi les prophéties non réalisées, qui on doit en tenir compte. Hein. On va chercher d'abord à établir la signification littérale. Si par exemple on se retrouve dans Ésaïe, essayer de comprendre la signification littérale, la plus simple au départ, l'application la plus simple par rapport à ce texte. Et si par exemple on est dans l'Ancien Testament, on ne parle pas de l'Église dans l'Ancien Testament. Jamais. On parle à ce moment-là au peuple juif. Il faut savoir que Daniel ou Ésaïe, les prophètes, recevaient souvent des prophéties et on oublie bien souvent que d'abord c'était une espèce de prédication à l'encontre du peuple. Ce n'est pas l'avenir qu'ils étaient en train de prédire. Mais là-dedans, Dieu se permettait, sans que des fois eux-mêmes comprennent, de mettre des textes pour l'avenir. Mais la prophétie au départ était d'abord pour dire au peuple « Attention, vous péchez, vous faites des choses mal, etc. » Mais Dieu se plaisait à mettre là-dedans des choses pour l'avenir aussi. Et eux ne comprenaient pas forcément tout, hein, pas tout. Donc, sur cette base, on va aussi chercher la signification symbolique, le sens spirituel qui est possible dans ces textes, hein, et nous laisser guider par les Écritures par rapport à cela. Il serait absurde de vouloir tout interpréter littéralement en oubliant les genres littéraires, et tout aussi fou d'interpréter tout symboliquement. Alors, c'est compliqué ce que je suis en train de dire. Ça veut dire que quand je vais lire dans l'Ancien Testament, il ne faut pas que je prenne tout à la lettre, dans le sens littéral. Il y aura des images, il y aura la poésie, il y aura des sens symboliques. Et il ne faut pas faire l'inverse en disant que tout est symbolique et donc il ne va rien se passer. Hein, donc, vous voyez que ce n'est pas si simple que ça d'aller interpréter les textes, etc. C'est un long, long travail. Si vous voulez être vraiment au clair un jour dans l'interprétation, il faut connaître toute la Bible presque par cœur, excusez-moi de le dire. Au moins connaître une bonne partie. Hein. Je ne veux pas décourager. Hein. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont là pour aider. Mais il faut quand même avoir une très bonne connaissance de tout cela. Et puis, on voit aussi dans la Bible qu'il y a un accomplissement progressif de la prophétie et de sa chronologie. Matthieu 24 et Luc 21, Jésus envisage dans une même vision, par exemple, deux événements semblables, mais éloignés dans le temps. Par exemple, il va dire au peuple juif, à cause de leur péché et parce qu'ils vont le crucifier, que bientôt les Romains vont venir envahir, et ça s'est passé en l'an 70, vont envahir Jérusalem, et Jérusalem sera détruite, le temple sera détruit, et puis Israël sera dans la diaspora pendant près de 2000 ans. Et en même temps, il est en train de prédire que l'Antichrist un jour viendra et prendra le pouvoir. Hein, donc, des fois, Jésus parlait et disait deux choses en même temps. Mais nous, on peut avoir le recul et comprendre ces choses-là. Mais à l'époque, c'était un peu délicat. Ils n'avaient pas toute la parole de Dieu encore. Pour comprendre aussi, on peut imaginer une chaîne de montagnes, par exemple, hein, où il y a deux sommets peuvent parfois se confondre en un seul. Je ne sais pas si vous êtes dans les Alpes ou dans les Vosges. Vous regardez hein, les montagnes comme ça. Ah, je vois qu'une montagne, en fait. Mais si vous vous surélevez un petit peu, d'un seul coup, ah, mais il y avait une montagne derrière. Et donc, il y a une interprétation, parce qu'on le voit comme cela, mais des fois, il y avait encore d'autres interprétations derrière, mais qui étaient cachées pour l'instant et qui vont se révéler au fur et à mesure que le Seigneur a comment dire, formé le canon biblique. Donc, c'est long à étudier, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Je ne voudrais pas qu'on soit découragé à la fin. Ça demande du temps, et on a le temps, hein, on a encore une vie devant nous. Donc, le temps de lire la Bible, prendre le temps des fois de noter. Tiens, il y a une prophétie, je ne comprends pas. Bah, Adrien, allô ? Je suis désolé, je vais t'embêter. Mais pourquoi pas poser des questions quand on n'a pas de réponse. Quand on regarde aussi dans tout cela, on peut s'intéresser au message de Jésus-Christ. Hein, et quelle place cette doctrine occupe dans les Écritures, parce que le retour de Jésus-Christ, forcément, ça concerne Jésus-Christ, hein, on est bien d'accord. Et quand on regarde la place que cette doctrine a dans les Écritures, on voit dans l'Ancien Testament qu'on porte de nombreuses prophéties relatives à Jésus. Elles se rapportent à sa gloire, à son règne futur, et les Juifs et les disciples attendaient avec impatience leur réalisation. Ils n'avaient pas tout compris à l'époque, hein, parce qu'ils espéraient que Jésus balaye les Romains, instaure son royaume, et c'était réglé. Jésus n'était pas venu pour ça à ce moment-là. Il n'avait pas tout compris. Jésus devait venir une première fois, mais pour mourir sur la croix. Vous imaginez s'il n'était pas mort sur la croix, puis ressuscité, on serait où aujourd'hui? Comment on pourrait être pardonné? S'il avait juste balayé les Romains, ça ne m'intéressait pas trop. Mais un jour, il viendra balayer le monde. Il fera le ménage. On voit par exemple qu'il y a environ 319 versets qui parlent du retour de Jésus-Christ sur 25. Cette doctrine a donc une grande importance en fait dans la Bible. Jésus-Christ lui-même est attaché par rapport à son retour, il va en parler plusieurs fois dans son enseignement. Donc c'est quelque chose qui est important. Je ne peux pas me dire l'eschatologie c'est compliqué, donc je vais laisser tomber. C'est faux. Et surtout parce que ça, comment dire, ça va impacter dans les autres doctrines. Si vous vous posez la question sur la doctrine de l'Église, ben, à un moment, il faudra dire, mais qu'est-ce que va devenir l'Église? Donc, on va parler eschatologie. Quand on parle de christologie, c'est-à-dire la doctrine de Christ, qui est Christ, oui, il est né sur la terre, mais qu'est-ce qu'il va faire dans le millénium, par exemple? Donc, encore une fois, ça touche. Et comme ça, quoi que vous abordiez dans la Bible, vous allez de toute façon vous retrouver à un moment à étudier l'eschatologie. Donc, c'est important de prendre au moins une fois le temps de l'étudier. Devons-nous attendre un accomplissement littéral des prophéties, surtout par rapport à la seconde venue de Jésus? Alors, avant de répondre à cette question, on doit déjà considérer ce qui s'est passé dans le passé, justement. Vous l'avez dit, Jésus est né d'une vierge, ça s'est réalisé littéralement. Ça a été annoncé dans Ésaïe, ça a été réalisé dans Matthieu. Autre chose, par exemple, on l'a livré au crachat et au coup sur la croix. Hein. On voit ça dans Ésaïe puis dans Matthieu. Autre chose, aucun de ses os ne fut brisé. Ça a été annoncé aussi, et ça c'était très rare à l'époque, hein. Les Romains ont brisé les jambes des crucifiés pour qu'ils meurent plus vite, et ça n'a pas été fait avec Jésus. C'est une sacrée prophétie quand on y réfléchit un petit peu, hein. Et comme ça il y en aurait beaucoup, hein, vous prendrez le temps de regarder. Donc si ces prophéties se sont accomplies littéralement, et c'est déjà passé, hein, il faut se poser plein de questions derrière. Jésus a déclaré formellement, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota et un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Il a ajouté à avoir donné ses propres prophéties concernant la fin des temps. Hein. En Matthieu, il dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Donc, on a vu jusqu'à présent que des prophéties se sont accomplies littéralement. D'accord ? Donc, la question qu'on peut se poser maintenant, sur celles qui ne se sont pas réalisées, comment elles vont se réaliser ? Si on suit le principe, de façon littéral. Hein. Les choses se sont passées, ont été annoncées, elles se sont accomplies, on les a vues. Dieu a permis dans la parole de Dieu de mettre des prophéties qui ne se sont pas encore réalisées, mais elles vont s'accomplir de la même manière que celles qui se sont réalisées jusqu'à présent, de façon littérale. Donc quand il est dit dans la Bible que Jésus va revenir, un jour, il va poser réellement ses pieds sur cette terre. Il y aura cette bataille d'Armageddon, on va revoir ça un peu plus tard, il va y avoir des conflits, etc., etc. D'accord ? Donc, comment on vit aujourd'hui ? Des fois, on peut se poser la question. Est-ce qu'on vit vraiment en se disant qu'un jour, Jésus va vraiment poser ses pieds ? Va instaurer son millénium ? Vous imaginez ? Ce serait bien pour les présidentielles, hein, qui prennent un peu la place. Moi, j'aimerais bien, parce qu'il y aura une justice, il y aura des choses mieux. Mais bon, ce n'est pas le projet de Jésus-Christ, ça sera encore mieux. Mais est-ce que nous-mêmes, hein, sans aller dans le complexe, est-ce qu'on prend vraiment le temps, des fois, de se lever le matin en se disant, bientôt, Jésus va revenir. Bientôt, je vais le voir face à face. Vous avez déjà pris le temps comme ça, en partant au boulot imaginez ça. Ça fait du bien normalement, hein. C'est notre espérance. C'est notre espérance, dit Paul. Alors pourquoi Jésus doit revenir ? Plusieurs choses. D'abord, il y a un temps de patience, nous dit 2 Pierre 3. Dieu aurait déjà pu envoyer Jésus et ça serait réglé, tout serait fini, mais on ne serait peut-être pas nous sauvés. Dieu est patient à l'égard des pécheurs et il veut en sauver un maximum et il prend le temps. Moi, si c'était juste à moi de décider, j'aimerais déjà être avec le Seigneur et ça serait réglé. Hein. Plus de problèmes, plus mal au dos, tout serait réglé. Mais heureusement que ça ne dépend pas de moi. Mais Dieu prend le temps parce que il a permis qu'un jour, moi, je puisse le découvrir, l'accepter dans ma vie, me repentir et l'accepter comme mon Sauveur et mon Seigneur. Heureusement qu'il a été patient avec moi et avec vous aussi. Et les patients avec beaucoup d'autres, on prie beaucoup pour des gens, et moi je suis un optimiste, hein, comme je dis souvent, on ne voit rien pour aujourd'hui, mais qui sait, dans 3 ans, 4 ans, peut-être quelqu'un va se convertir. Dieu peut faire des choses formidables. Donc Dieu est patient aujourd'hui, mais il va revenir quand même un jour, et il va délivrer les siens, nous dit Luc, hein. Il va aussi juger le monde pécheur, parce que le monde vit aujourd'hui sans Dieu, n'a pas besoin de Dieu, se moque de Dieu, se sent au-dessus de Dieu, mais un jour tout le monde va fléchir le genou devant lui, qu'on le veuille ou non. Donc il jugera ce monde un jour, et puis Jésus-Christ, on verra ça un peu plus tard, hein, dans les conférences, va établir son règne aussi pendant 1000 ans, et puis finalement tout ça va être détruit, et enfin une nouvelle terre et des nouveaux cieux. On en parlera lundi normalement. Quelle promesse il a fait à ceux qui prennent à cœur la prophétie? Seuls ceux qui auront de l'intelligence, nous dit Daniel, comprendront les paroles secrètes du livre. Alors, ça c'était pour l'Ancien Testament, mais pour celui qui prend le temps d'étudier un peu la Bible, il va comprendre de mieux en mieux. Alors là, on parle d'eschatologie, mais moi je pense que c'est valable dans beaucoup d'autres domaines. Beaucoup de chrétiens suivent Dieu. Alors, on pose 2-3 questions, c'est qui Jésus-Christ? Ils vont nous répondre. Mais après, qu'est-ce qu'il a fait? C'est quoi la rédemption? C'est quoi le rachat? C'est quoi la justification? Et beaucoup de gens ne savent pas. Et finalement, beaucoup de gens suivent Jésus, mais ne savent pas qui il est, en fait, réellement. Et moi, j'aime pas suivre quelqu'un que je connais pas. Enfin, je sais pas de vous. Si quelqu'un dans la rue vous dit, viens, suis-moi, vous le suivez? Vous appelez la police, non? Il est bizarre, ce gars. Et bien, c'est pareil pour Jésus-Christ. Est-ce qu'on connaît vraiment Jésus? On connaît, je pense souvent, pas assez de sa personne, de ce qu'il est, de ce qu'il peut, de ce qu'il va faire. Et particulièrement dans l'eschatologie. Et donc, le fait d'étudier la Bible, de prendre le temps de la lire et de la relire et de la relire et de l'étudier, me permet de mieux connaître Dieu, mieux connaître Jésus-Christ, mieux connaître l'eschatologie. Et tout cela, ça me donne confiance aussi, ça me donne de la joie aussi de savoir qui est Dieu. Dieu, il est puissant? Un peu? Moyen? Vous n'avez pas l'air convaincu, hein? Il est tout puissant. Et chaque jour, en fait, il est avec vous, à vos côtés. Ça veut dire que je dispose de tout cela, quelque part. Ça donne de la joie, non? Ça donne de la force, ça donne de l'envie d'aller de l'avant. Mais souvent, on ne le sait pas ou on l'oublie, et c'est bien dommage. Ouais. Et souvent, on déprime. Autre chose encore par rapport à ces promesses, Jésus rappelle la joie qu'auront les serviteurs qui attendent l'arrivée de leur maître. Vous avez déjà pris le temps d'imaginer de vous retrouver devant Jésus-Christ, sérieusement. Ça va faire bizarre, non? S'il venait là maintenant, qu'est-ce que vous lui diriez? Je crois qu'on serait un peu muet, à mon avis, hein, devant la gloire de Jésus-Christ. Hein. Mais c'est ce qui va nous arriver. Alors, on a l'impression des fois que c'est juste un petit rêve dans notre vie, mais un jour ça va nous arriver. Et l'eschatologie, ça nous permet aussi de nous souvenir de ces choses-là. On voit par exemple dans Apocalypse, hein, ça paraît souvent sombre, mais dans le ciel, il y a une joie immense. Hein, ça chante, ça loue Dieu. Il y a une joie énorme dans ce ciel parce qu'ils adorent l'Éternel. Et puis ce fameux texte de Paul, hein, « Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Est-ce que vous aimez l'avènement de Jésus-Christ? Ça veut dire, est-ce que vous êtes heureux de savoir qu'un jour Jésus-Christ va venir, ou ça vous passe au-dessus? Il n'y a que moi qui suis content? C'est vrai, je vois, ouais, il y a un doigt levé, c'est bien, hein. On devrait être content, on devrait aimer cet avènement. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on regarde ce monde aujourd'hui et les choses qui se mettent en place, j'ai dit on ne donne pas de date, mais il y a quand même certaines pistes qui sont là et on va les voir. Voilà pour l'introduction. Pour étudier l'eschatologie et surtout pour mettre de l'ordre, on va dire, dans toutes les pensées, on va mettre en place un système eschatologique. Et pour ça, on va lire d'abord dans Daniel chapitre 9, les versets 20 à 27. Daniel chapitre 9, versets 20 à 27. Daniel chapitre 9, versets 20 à 27, je vais lire. J'attends que tout le monde trouve. C'est là où ça va devenir un peu plus compliqué, mais on va essayer de prendre le temps. Verset 20, dans le chapitre 9 de Daniel, il dit « Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi et me dit « Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, ta parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. » Voilà la fameuse vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront retranchés, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché et il n'y aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire et sa fin arrivera comme une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Voilà un texte qui est une espèce de charnière quand on essaie d'étudier l'eschatologie et qui va nous donner énormément de pistes et tout particulièrement une espèce de chronologie en fait de l'eschatologie ou des choses qui vont venir dans l'avenir. Et généralement, on parle de ce texte comme étant les 70 semaines de Daniel. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Peut-être pas tout le monde, oui, c'est pas, on n'étudie pas ça tous les jours. Hein. Ou on parle aussi des septaines, hein, on va voir pourquoi tout à l'heure. La Bible emploie le mot « semaine », des fois, hein, qui se réfère en fait à 7 unités. Vous savez ce que c'est une semaine. Une semaine de travail, on connaît. Hein. Et ça veut dire 7 jours. Mais parfois... ils emploient aussi le mot septaine, enfin, à l'époque, hein, et dans leur idée, c'était pas forcément une idée de jour. Hein. Les Juifs anciens, par exemple, utilisaient le mot heptane ou semaine d'année pour indiquer une période de 7 ans. Tout comme nous utilisons, nous, aujourd'hui, le mot décade. Une décade, c'est... Non, 10 ans. 10 ans. Il y en a qui ne veulent pas vieillir. Hein. Donc, il y a une manière d'utiliser les mots aussi. Hein. Cette manière de compter symboliquement un jour pour une année était en fait familière aux Juifs. Par exemple, en Israël, toutes les septièmes années s'appelaient années sabbatiques. Hein, il faut étudier un peu la loi. Et elles marquaient les calculs, en fait, du calendrier juif. La violation, par exemple, de l'observation de ces années sabbatiques, hein, les Juifs vont ne pas les pratiquer, va provoquer plus tard des jugements et la captivité des Juifs à Babylone. Je ne sais pas si vous avez déjà étudié, qui va durer 70 ans. On voit ça dans Daniel et d'autres textes. Et le Lévitique mentionne, par exemple, le sabbat comme étant en semaine d'année. Alors, c'est un peu compliqué tout ce que je dis, on va résumer cela. En fait, dans ces termes, on peut dire que 70 semaines, c'est-à-dire 70 septaines, équivaut en fait à 490 années, hein, parce qu'on va les multiplier par 7. On va faire un peu de mathématiques ce soir. Hein. Il a dit tout à l'heure, ça va être un petit peu ardu. Alors. Vous aimez les maths ? Oui, bon, ben, vous n'avez pas aimé alors. Donc, 70 semaines ont été prophétisées par Daniel. Et ces 70 semaines, en fait, représentent 70 semaines fois 7, c'est-à-dire 490 ans. On va parler de ces 490 ans. Et en lisant le texte, on a vu qu'il y a un découpage qui s'est fait. D'abord, il parle de 7 semaines, puis il va parler de 62 semaines, mais les deux sont liés. Dans l'hébreu, ils sont liés, je ne vais pas rentrer trop dans le détail non plus. Il va parler ensuite d'une semaine, et le total, ça fait donc 49 plus 434 plus 7, ça fait 490 années, ça équivaut à 70 semaines fois 7. Ça va ? Vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Hein. Donc nous avons deux périodes particulières qui comptabilisent ces 490 années. Hein. La première période, c'est, on voit avec mon doigt, c'est bien, cette période-là qui va comptabiliser 483 ans. Et puis une autre période, plus tard, on va expliquer pourquoi c'est là, qui va durer 7 années. 7 années, c'est-à-dire une semaine selon les septaines de Daniel. Ça va ? Ensuite, voilà, je fais le résumé là. Hein. Ensuite, on va voir deux périodes de 3 ans. Puisqu'on a lu tout à l'heure dans Daniel, Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Cette semaine équivaut à ce que j'ai mis en rouge là. On va le situer plus tard. Et il dit au milieu de la semaine, il va faire cesser le sacrifice et l'offrande. Quand on parle de « il », en fait, il s'agit de l'Antichrist. Et en même temps, il faut bien comprendre, mais on en reparlera, s'il y a sacrifice, ça signifie qu'il y a un temple. Est-ce qu'il y a un temple aujourd'hui à Jérusalem ? On ne fait pas de sacrifice aujourd'hui, mais tout est prêt pour ça. Donc, quelque part, on peut dire que cette chose-là, cette partie-là, ne s'est pas encore réalisée. Ça, on va le voir tout à l'heure, ça s'est réalisé de façon littérale. C'est pour ça que c'est important. Mais là, il dit que c'est découpé en deux parties, une période divisée en deux où il va y avoir des événements, et ça on va le voir un peu plus tard durant la conférence. Comme nous l'avons calculé précédemment, cette dernière semaine comporte sept années. Le verset 27 annonce un événement particulier au milieu de cette dernière semaine. Il y a un chef qui va venir, qui va faire d'abord au début de cette semaine-là une alliance avec tout le monde. Certains pensent qu'en fait il va faire une espèce de paix universelle, il va devenir le chef de cette terre quelque part, ou de l'Europe éventuellement. Mais c'était trompeur quelque part, et il a certainement fait la paix avec les Juifs aussi, mais au milieu de la semaine, on verra ça, je vais vous expliquer, il va rentrer dans le temple et il va se dire « je suis Dieu ». Et il va demander au monde entier d'être adoré. Et forcément, il va faire cesser le sacrifice des Juifs qui étaient pour leur Dieu, il va faire certainement cesser beaucoup de toutes les religions, etc. Parce que cet Antichrist va maintenant vouloir être adoré par tout le monde. On expliquera plus en détail un peu plus tard, mais c'est juste pour vous faire comprendre pourquoi c'est divisé en deux. Ce qui est intéressant dans la Bible aussi, c'est que, ok, Daniel nous dit ces choses-là il y a bien des années, c'est dans l'Ancien Testament. Comment est-ce qu'on pourrait corroborer ces choses aujourd'hui ? Est-ce qu'on a des preuves pour dire que, par exemple, une semaine équivaut à 7 ans ? Est-ce qu'on a des preuves ? Si on prend le temps, oui. Quand on va dans le Nouveau Testament, on peut voir par exemple qu'il y a une expression, je ne sais pas si vous avez déjà lu dans l'Apocalypse, un temps, des temps et la moitié d'un temps. Il va employer cette expression à un moment. Par contre, il va employer d'autres expressions, par exemple 42 mois. Vous voyez ça dans Apocalypse 11 et Apocalypse 13. Donc bon, voilà pour l'instant, 42 mois. Et puis il emploie aussi dans Apocalypse 11 et Apocalypse 12, 1260 jours. Et en fait, ces trois périodes équivalent à la même période de temps. 42 mois équivaut à 1260 jours, je vais expliquer tout à l'heure, parce que c'est pas sur la base de notre calendrier, mais c'est trois périodes de temps. Et en fait, si on fait le calcul, 1260 jours, ça fait 3 ans et demi. Et 3 ans et demi, ça équivaut à la moitié de la semaine ici. Vous me suivez ? Cette semaine fait 7 ans, nous dit Daniel, qui va être coupée en deux périodes de 3 ans et demi, 7 divisé par 2, ça fait 3 et demi. Alors on peut dire c'est l'Ancien Testament, j'ai rien pour le prouver, ok, mais par contre bien des années plus tard, dans l'Apocalypse, c'est démontré par ces périodes-là qui vont être, c'est des événements en fait qui vont être placés dans cette période de la tribulation, mais ça corrobore en fait tout simplement que on peut littéralement dire voilà, ces périodes sont des périodes qui vont se réaliser à la lettre. Vous comprenez l'argument que je veux avancer là ? Ça va ? On est juste au début là. Vous viendrez me voir si vous. Tout ça pour dire, pour l'instant, quand Daniel a eu la révélation de cette vision, Dieu lui a dit au travers de Gabriel, voilà, il y a une grande période de 483 ans qui vont commencer à un moment, on va définir tout à l'heure à quel moment, et puis il y a encore une période de cette dernière semaine qui va aussi se réaliser, et on va voir où et comment. J'ai un petit tableau là que j'ai mis à la page 6 pour faire les équivalences de temps. Un temps, des temps et la moitié d'un temps, si vous allez voir dans l'Apocalypse, vous verrez que ça équivaut à 1260 jours. Et puis on voit que 1260 jours équivaut à 42 mois. Ce soir, tranquillement, vous regarderez les versets et vous ferez les équivalences. Donc on peut dire qu'un temps, des temps et la moitié d'un temps équivaut à 1260 jours. Je vous ai fait les calculs dans le petit carnet. 1260 jours équivaut à 42 mois. 42 mois équivalent à 3 ans et demi. Et tout cela corrobore tout simplement l'interprétation littérale qu'on va faire maintenant de Daniel 9, tout simplement. Donc les trois périodes correspondent à une même durée. Ajoutons encore que 42 mois équivalent à 3 ans et demi, on l'a dit, on voit ça dans d'autres textes. Aussi, les trois années et demie de Daniel sont équivalents aux 1260 jours, 42 mois, et à l'expression un temps, des temps et la moitié d'un temps. Je vous ai fait un peu le petit schéma tout en bas de la page 6, hein, qui découpe un petit peu ces périodes-là. On voit aussi, quand on lit dans Daniel 12, un peu plus loin, qu'il va exister... Hop, on va avancer... Il va exister deux périodes supplémentaires... Non, je suis allé trop vite. Bon, c'est pas grave, vous l'avez dans le schéma. On peut revenir en arrière, normalement. Voilà. Il y a deux périodes supplémentaires qui sont un petit peu compliquées dans Daniel 12. On pourrait peut-être lire Daniel 12, versets 11 à 12, qu'on va rajouter à ce schéma... sans vraiment tout expliquer, mais il faut que vous le sachiez. Daniel 12, versets 11 à 12, hein, c'est juste tout à la fin, en fait, de Daniel. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui atteindra, qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Et toi, marche vers ta fin, etc., etc. Donc, c'est des périodes supplémentaires que Dieu révèle à Daniel. Il n'a pas tout compris, lui, nous non plus, mais qu'on va aussi placer sur ce système-là, hein. Il y a 1290 jours. Et en fait, ça commence à partir du milieu de la tribulation, quand il y a l'abomination du dévastateur. C'est-à-dire quand, comme j'avais dit tout à l'heure, quand l'Antichrist va se proclamer Dieu, qu'il va rentrer dans le temple. Pour un juif, il n'y a pas plus abominable. Hein. À l'époque, dans l'histoire, il y avait un roi, le nom m'échappe, qui était entré dans le temple juif et qui avait sacrifié un porc. Antiochus Épiphane, et évidemment, ça allait choquer les juifs. Hein. Alors, des fois, il y en a qui placent ça là, mais ce n'est pas les mêmes événements. Et donc, qu'est-ce que c'est que ces périodes? Alors, deux périodes avec différentes interprétations. Alors, certains pensent qu'il s'agit d'un temps nécessaire à la purification du temple de Dieu, comme j'ai dit avec Antiochus Épiphane, hein, comme il a été souillé, à la fin, quand Jésus va revenir, il y a peut-être une période de temps où on va purifier le temple. C'est une idée, hein, je ne veux pas répondre ce soir à la question, mais voilà un peu les commentaires. Le roi Ézéchias avait également retardé d'un mois la célébration de la Pâque, par exemple, parce que les sacrificateurs n'étaient pas sanctifiés. Donc avant d'entrer dans le temple, les juifs avaient tout un processus pour rentrer. Ils ne pénétraient pas comme cela, ils purifiaient le temple d'abord. D'autres pensent aussi qu'il pourrait s'agir d'un temps nécessaire par rapport aux divers jugements. Ça aussi, on va en parler. Quand Jésus va revenir tout à la fin là, il va y avoir divers jugements. Et ça prend du temps, hein. On est 7 milliards sur la Terre. Donc je pense que ça va prendre un peu de temps pour que des choses vont se réaliser à ce moment-là. Donc est-ce que ça sera des jugements? Est-ce que ça sera pour la purification? J'ai dit, on ne peut pas aller au-delà du texte, je ne vais pas inventer quelque chose juste pour vous faire plaisir, c'est des interprétations, on le verra bien un jour, hein, donc, à moins que vous ayez d'autres explications. À la fin, en fait, la Bible nous dit, et on en reparlera, quand Jésus va revenir, qu'il aura gagné la bataille d'Armageddon, une fois qu'il aura détruit ses ennemis, il va y avoir le jugement des Juifs, il va juger les Juifs selon certaines choses, on le verra, et il va aussi juger les nations selon certains arguments. Et beaucoup de gens vont mourir ce jour-là. Parce qu'ils n'ont pas suivi Dieu, Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous imaginez Jésus qui vient combattre l'homme. Enfin, ceux qui sont opposés à lui. Ça va être terrible, terrible en fait. Avec tout cela, donc, on a un argument, on pourrait dire, pour une interprétation littérale de ces 70 semaines. Hein. Alors, nous, on a un calendrier de 365 jours. Virgule quelque chose, hein, une petite virgule, ça c'est ce qu'on appelle un calendrier calendaire, on parle en calendaire, mais eux à l'époque en fait utilisaient des années prophétiques, et c'est démontré par les calculs que je vous ai fait tout à l'heure, hein. 1260 jours équivaut à 42 mois. Si vous le faites avec un système calendaire comme le nôtre, ça ne marche pas. Par contre, si vous utilisez les années prophétiques qui sont de 360 jours, alors tout cela commence à fonctionner. Et ça, il faut le savoir avant de commencer à faire des calculs et à étudier toute cette eschatologie. Hein. Donc Daniel déclare que depuis la parole qui annonce que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie conducteur, donc il dit il y a un début, hein, la muraille de Jérusalem qui va être bâtie, jusqu'au Messie conducteur. Donc il dit un début et il dit une fin. Il y a donc 7 semaines et 62 semaines, donc entre ces deux périodes, quelque chose qui dit la muraille va être construite, à l'époque de la déportation, et à la fin, Jésus qui va être crucifié. Il y a une période qui est là. Les années sont ici, en fait, comme on l'a dit, des années prophétiques de 360 jours. On l'a vu, la déduction, pourquoi. Alors, la question, c'est maintenant de se poser la question, mais à partir de quand ça commence ? Hein, on a dit qu'il y a un début, et ça s'arrête à un moment. Alors, le point de départ est l'autorisation, en fait, que reçoit Néhémie de la part d'Artaxerxès pour se rendre à Jérusalem et pour reconstruire la muraille. Donc, c'est en 445 avant Jésus-Christ que cet ordre a été donné et qu'on a le point de départ, en fait, de cette prophétie. Pourquoi je dis ça ? Parce que si vous connaissez un peu Néhémie et Esdras, vous savez qu'il y a Néhémie qui a été envoyé pour bâtir le temple, il y a aussi Esdras, ils ont eu chacun des missions. Mais chaque fois, c'était sous forme de décret. Esdras a eu, par décret de Cyrus, ou par Darius, ou par Artaxerxès, ils ont eu des décrets pour aller faire une mission. Par contre, dans la prophétie de Daniel, il dit c'est au moment où la parole va sortir. Il ne s'agit pas d'un décret. Il s'agit du roi Artaxerxès qui va dire à un moment allez reconstruire la ville de Jérusalem. Donc ce n'est pas un décret, ça nous permet en fait d'écarter les autres dates. Vous comprenez l'idée ? Il y avait d'autres décrets qui disaient on va aller de nouveau à Jérusalem pour bâtir la muraille, pour bâtir le temple, etc. Mais ça c'était sur la base d'un décret, c'était signé par le roi. Par contre Daniel ne dit pas c'est un décret, c'est au moment où quelqu'un va parler. Et s'il avait envie de dire décret, pour que ça soit vraiment clair dans notre tête, ben il aurait employé des mots. J'ai mis là, je ne vais pas rentrer dans le détail, vous lirez l'hébreu, mais il aurait pu employer d'autres mots pour dire que c'est un décret, et c'est donc au début du décret que les choses vont commencer. Vous comprenez ? Donc l'argument, c'est de dire que on peut, vous voyez le tableau que j'ai mis avec les rois, les règnes, etc., il y a quatre grands événements en fait dans la reconstruction du temple et dans le retour des juifs aussi. Cyrus, la première année par exemple, avait fait un décret, on est en 538, pour aller reconstruire le temple. On a Darius en 526 aussi qui va faire un décret pour aller rebâtir le temple. Puis Artaxerxès, sa septième année par contre, va proposer à Esdras d'aller reconstruire le temple. Mais chaque fois c'était des décrets. La seule parole qui n'est pas un décret, c'est en 445 avant Jésus-Christ. Et ce qui est intéressant, c'est que cette date, c'est pas moi qui vous le dis seulement, c'est bien une année profane où Artaxerxès a bien fait les choses et a dit les choses. C'est ça qui est intéressant. L'histoire corrobore en fait ça et corrobore la Bible. Donc on a notre point de départ. Ça va ? C'est simple. Oui, non, c'est assez simple. On a notre point de départ, c'est ça qui est important. Et maintenant, on va calculer jusqu'au Messie retranché. Parce qu'on avait vu tout à l'heure qu'il y a un point de départ, et puis là, dans Daniel, il y a le Messie qui est retranché. Donc depuis 445 avant Jésus-Christ, il va falloir compter, vous vous souvenez, les 69 semaines qui équivalent à 483 années. Donc à partir de moins 445, on va commencer à compter 483 années, jusqu'à arriver au Messie retranché. Si on calcule, parce que nous on va le faire avec notre calendrier à nous, sur 365 jours, virgule quelque chose, vous allez arriver, parce que moi je me suis amusé à faire une année après l'autre, j'ai un tableau si ça vous intéresse, et on arrive à peu près à l'an 38 après Jésus-Christ. Vous commencez donc au début de cette prophétie et vous comptez 483 années, c'est-à-dire les 7 années plus les 62 semaines de Daniel, et vous arrivez à peu près à l'an 38. Mais on a dit tout à l'heure que eux calculés en années prophétiques. Donc on a des années en trop. Donc en bas de la page 7, si on calculait tous ces jours en années calendaires, on obtiendrait 176 415,75 jours. Ça à retenir par cœur. Il y a une interrogation écrite après. Non, je rigole. Mais en fait, ça c'est une année calendaire. Par contre, si on calculait en années prophétiques, on obtiendra 173 880 jours. Qui a fait la soustraction là ? Il y a combien de jours en trop ? Il y en a qui l'ont fait ? C'est écrit juste sur la page suivante, 2535 jours, 75. Je suis pas très pro non plus en mathématiques. Donc, on a, parce qu'on a calculé sur un système calendaire, on a des jours en trop, donc on va les retrancher ces jours-là, parce qu'on parlait en année prophétique. Et quand on fait un calcul, les 2535 équivalent à peu près à 7 années, donc on fait 38 moins 7, ça équivaut à 31. Et donc la prophétie commence en moins 445, plus les 483 années en année prophétique cette fois, et on arrive à l'an 31 après Jésus-Christ. Ça vous dit quelque chose, 31 environ là ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Jésus est mort sur la croix. Enfin, on va donner une fourchette, hein, parce qu'il y a beaucoup de paramètres qu'on ne connaît pas, parce que si on avait commencé l'année au début, vraiment, comme si on commençait en janvier, il y a peut-être une année en plus. Hein. Vous allez voir, il y a quand même une petite variante, mais ça dépend pas de nous. Hein, mais voilà. Donc on arrive avec juste la prophétie de Daniel de dire que de 445, on a, en calculant ce qu'il a prédit, on arrive en fait à l'an 31 après Jésus-Christ, qui correspond à peu près à la mort de ce Messie qui va être retranché, c'est-à-dire Jésus-Christ. Il faut savoir que nous, on va compter 445 juste à 31. Quand on arrive à moins 2, moins 1, on ne va pas faire 0, plus 1, plus 2. On va passer de l'an moins 1 à l'an plus 1. On n'est pas dans zéro, ça n'existe pas. Sinon, il y aurait 2 ans, vous comprenez. Donc, ça fait encore une année de plus. Hein. Ça fait une année de plus qu'il faut ajouter, et finalement, on va arriver à l'an 32 après Jésus-Christ. Ça va? C'est dur le soir. Hein. Ça nous rappelle les mathématiques à l'école. Hein. Alors, là, juste avec la prophétie de Daniel, on peut dire que cette prophétie s'est accomplie de façon littérale. La preuve est démontrée là. On calcule simplement ce qui a été dit par la parole de Dieu, on ajoute les années, on fait des mathématiques, on fait des additions tout simplement, et on arrive à peu près à trouver la date quand le Messie sera retranché, comme dit Daniel, c'est-à-dire quand Jésus-Christ va être crucifié sur la croix. C'est quand même précis, non? Vous auriez été capable de prévoir ça, vous? Personne n'est capable de prévoir ça. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et il l'a mis dans la parole et au travers de Daniel. Mais on pourrait dire, ouais, bon, ouais, pourquoi pas. Mais on va voir qu'il y a d'autres choses qui corroborent cette date-là. Il y a d'autres moyens de calculer, en fait, cette date-là. Par exemple, dans Jean 2, 20, il est dit, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Hein, c'est les pharisiens qui parlent à Jésus. Et toi, tu dis qu'en 3 jours, tu relèveras. Ils sont en train de nous donner, en fait, une date à ce moment-là. C'est ça qui est intéressant. Hein. Peu après le baptême de Jésus, les Juifs ont déclaré à Jésus qu'il a fallu 46 ans pour construire le temple. Et l'histoire nous apprend que la reconstruction du temple a été faite par Hérode. Et on sait que, d'après l'histoire profane, ça a commencé en l'an 20-19 avant Jésus-Christ. Donc là, on me donne aussi un repère, quelque part. Si on ajoute ces 46 ans à ces moins 20 avant Jésus-Christ, on va arriver à l'an 27 après Jésus-Christ. Hein. Ça, c'est l'an zéro. Enfin, elle n'existe pas, mais le temple a commencé à être bâti en l'an moins 20. Là, les Juifs, ils lui disent à un moment, c'est 46 ans, donc moins 20 plus 46, on arrive à peu près à l'an 27. Hein. Et au moment où Jésus avait dit ça, et les pharisiens lui avaient dit ça, il commençait tout simplement son ministère. Et son ministère a duré environ 3 ans. Donc, on est à l'an, on avait dit 27, vous rajoutez 3 ans de ministère, Jésus va mourir sur la croix, donc on arrive à peu près à l'an 30. Après Jésus-Christ. Ça confirme la date de Daniel par un autre argument. Là, il est plutôt historique, l'argument. Donc là, maintenant, déjà, on a deux preuves, on pourrait dire, dans la Bible qui disent, cette prophétie est littérale. Elle s'est accomplie de façon littérale. Dans Luc 3, 1, il est dit, la 15e année du règne de Tibère César, là, ça donne encore une date, hein, parce qu'on peut la placer dans le ministère de Jésus. Alors, ce verset marque le début du ministère de Jean-Baptiste, par contre. Une date situe cet événement la 15e année de Tibère César. On sait qu'il a régné de 14 à 37 après Jésus-Christ. Luc va fixer cette date selon le calendrier romain, puisque lui, il s'intéressait pas vraiment aux Juifs, mais plutôt à des chrétiens qui étaient non-Juifs à ce moment-là, donc il s'adressait d'une certaine manière. Et les Romains utilisaient aussi des années factuelles, c'est-à-dire que les années de règne étaient calées sur la date de l'avènement. C'est un peu compliqué. Une année, ça commençait pas forcément au début, ça pouvait être tout le temps d'une année d'un règne, enfin c'est un peu compliqué. Hein. Donc ça laisse un petit peu d'écart aussi dans le calcul, c'est pas exact. L'an 15 de Tibère César va donc du 17 septembre 28 ou 29, selon l'année factuelle, au 16 septembre 20 et 30. Donc la 15e année de Tibère correspond à l'an 29-30 après Jésus-Christ. On sait que Jésus a commencé son ministère à 30 ans. C'est pas un âge par hasard, parce que les prêtres généralement commençaient leur office à l'âge de 30 ans. Hein, on voit ça dans Nombre par exemple. Donc il a commencé son ministère. On sait que Jean devait avoir environ 30 ans aussi à ce moment-là, quand il a commencé à prêcher au bord du Jourdain. On sait qu'il est né 6 mois avant Jésus. Ça, il suffit d'aller faire les calculs quand on voit ça à Noël généralement. Hein. Donc par conséquent, Jésus avait 30 ans en l'an 29-30 après Jésus-Christ. Et si on ajoute de nouveau ces 3 années de ministère, on va arriver à l'an 32-33. Et là, on a vu, ça dépend en fait de comment on calcule les années factuelles de ces rois. C'est un troisième argument qui nous dit, voilà, cette prophétie de Daniel s'est accomplie littéralement. Encore une fois. Vous voyez, on ne va pas dire que les choses se sont faites juste sur la base d'un argument. On a déjà 3 arguments. Et puis, il y a un 4e argument, c'est la mort d'Hérode, qui s'est faite en l'an 4 avant Jésus-Christ. Hein. Alors ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'histoire qui est tout à fait d'accord que Hérode est mort en l'an 4 avant Jésus-Christ. Vous vous souvenez qu'est-ce qu'il avait fait, Hérode, avec les petits-enfants ? Il les a persécutés et les a tués même, hein. On sait que Jésus avait moins de 2 ans lorsque Hérode fait tuer les enfants, hein, de moins de 2 ans, puisqu'il dit dans Matthieu 2 d'aller tuer les enfants de moins de 2 ans. Donc Jésus était déjà vivant avant que Hérode décède, en l'an 4 avant Jésus-Christ. Et Jésus serait né en 6-4 avant Jésus-Christ. Je ne sais pas si Jésus est né en 6-4 avant Jésus-Christ. C'est pas bizarre, non ? Alors, pour la plupart des commentateurs, on pense que Jésus serait né en 5 avant Jésus-Christ. Hein. Bon, on n'est pas exactement précis. Hein. Luc précise dans son évangile que Jésus avait 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Nous savons également que Jésus a eu un ministère de 3 ans. Alors, ça dépend, il y en a qui disent qu'il a fait 3 ou 4 Pâques, selon les experts. Hein. Il mourut donc à l'âge de 33 ans. Et si nous calculons maintenant 33 ans à partir de l'an 5 avant Jésus-Christ, on arrive à peu près à l'an 29, on pourrait dire 30 de Jésus-Christ. 4e argument qui corrobore tout simplement que la prophétie de Daniel s'est accomplie de façon littérale. Vous voyez pourquoi on fait ces calculs ? C'est un peu rébarbatif, je promets que ça ne sera pas tout le temps comme ça, mais à un moment, il faut quand même se plonger dans la parole. Elle nous a laissé ses calculs, c'est pas par hasard. Dieu aime les mathématiciens aussi, c'est bien, hein. Moi qui n'aimais pas les mathématiques, j'ai dû m'y mettre. Mais c'est quand même formidable quand on commence vraiment à creuser la Bible, les preuves qu'il nous a laissées. Mais si on lit la Bible de façon un peu rapide, superficielle, ben on va pas découvrir tous ces trésors-là. Mais ce qui est surtout le plus important pour moi, et c'est ce que je veux démontrer à travers ces calculs, c'est que Jésus, que Dieu a dit au travers de Gabriel, il y a un début, il y a une date et une certaine longueur de date, et à ce moment-là, le Messie sera retranché. Et la prophétie s'est accomplie de façon littérale. Jésus est bienvenu au bout de 483 ans, il a donné sa vie pour chacun d'entre nous, et les choses se sont accomplies littéralement. Et ça, c'est important parce que aujourd'hui, il y a des gens qui disent, bon, il y a eu beaucoup d'accomplissements littéraux, ok, ça s'est passé, on peut rien dire, on peut pas dire que Jésus n'est pas venu, etc. Par contre, pour ce qui va se passer dans l'avenir, et moi je pense, je sais pas si c'est sur le prochain, je pense à cette période-là, parce que ça, on n'a pas encore placé, on pourrait dire, dans le temps. Vous comprenez ? Alors, l'idée, c'était justement de démontrer d'abord que tout cela s'est accompli de façon littérale. Ça veut dire que cette dernière semaine va aussi s'accomplir de façon littérale. Est-ce que ça s'est déjà accompli, d'après vous ? Il faut savoir que, comme on l'a lu dans Daniel, il va y avoir cet antichrist, il va y avoir un nouveau temple, donc ça veut dire qu'il y a des sacrifices, ça veut dire qu'à Jérusalem, il y a un sacrifice qui sera remis en marche, et comme à l'époque, ils vont resacrifier des animaux, etc. Est-ce que vous avez déjà vu un temple comme ça depuis ? Non. Et depuis que le Messie a été retranché, en l'an 70 après Jésus-Christ, le temple est détruit, Jérusalem est détruite et Israël est dans la diaspora jusqu'en 1948 hein, de notre ère. Pendant tout ce temps-là, il n'y avait pas de temple. Et aujourd'hui, il n'y a toujours pas de temple parce que là où il y avait le temple de Salomon à l'époque, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui ? Il y a une mosquée. Et donc, ils ne peuvent pas construire le temple. Par contre, il faut savoir que tout est prêt pour construire le nouveau temple. Tout. Il faut savoir que quand le temple était inauguré, il fallait ce qu'on appelle une vache rousse. C'est très rare. Et c'était avec le sang de cette vache rousse qu'on purifiait en fait le temple. Et pendant des siècles et des siècles, on n'en trouvait plus. Ils l'ont retrouvé. Ils ont fait des recherches ADN pour savoir qui descendait Lévite, etc. Tout est absolument prêt aujourd'hui pour construire le temple. Tout ce qui manque, c'est l'emplacement. Donc on est quand même... Vous voyez, on ne sait pas quand Jésus va revenir... Mais l'Europe a été reconstituée, ça on va en parler un peu plus tard, ça c'est quelque chose de biblique. On a le temple qui est prêt pour mettre cette prophétie-là en marche, c'est-à-dire mettre en marche cette dernière semaine de Daniel. on touche du... on n'est pas loin. Je ne sais pas si ça va arriver demain, dans 1000 ans ou 3000 ans. Ça, ce n'est pas mon problème de toute façon. Mais dans la Bible, il dit aussi d'être un peu vigilant aux signes, à tout ce qui se passe dans ce monde. Il y aura des guerres, il y aura un tas de choses. Et là, il y a quand même beaucoup d'arguments pour nous dire qu'on est proche de la fin. De toute façon, on n'a jamais été plus proche. Paul espérait déjà que Jésus revienne, mais nous, on est encore plus proche que lui. Donc, et nos enfants encore plus après. Hein. Donc, comme nous venons de le voir, les 483 années prophétiques de Daniel conduisent avec précision vers la mort de Jésus-Christ, c'est-à-dire au Messie retranché. Alors, on l'a vu, c'est pas facile d'être parfait parce qu'il y a des petits détails qui nous échappent, mais la précision de la prophétie de Daniel a été accomplie littéralement. Si cette première période s'est accomplie littéralement, il est difficile à présent de ne pas interpréter littéralement la dernière semaine de Daniel. Mais même si un écart, vous voyez, ça ne suit pas directement la première partie de la prophétie, il y a là une période de temps, c'est très difficile de savoir combien, mais comme on l'avait dit tout à l'heure, ces choses qui vont s'accomplir dans la dernière semaine ne se sont pas encore accomplies. Donc c'est en attendant. Et pour l'instant, il n'y a rien qui me dit que ça s'est déjà accompli ou que ça va s'accomplir là dans les minutes. Alors pourquoi attendre aujourd'hui cette dernière semaine ? Depuis la prophétie de Daniel, nous n'avons pas encore observé les événements, comme on l'a dit, qui correspondent à ce chapitre 9 de Daniel. Alors il faut savoir que, en résumé, mais on va voir ça un peu plus dans le détail, au début de cette semaine, on l'avait vu, il va y avoir un pacte qui va être fait avec le monde entier. L'Antichrist va faire un pacte, on pense que ça sera certainement en Europe, et va vouloir une paix mondiale. Vous savez, il y a la mondialisation aujourd'hui, il y a tout qui est centralisé, et ça devient de plus en plus possible. Et il va faire croire à tout le monde qu'il est bon, il est gentil. Tout doucement, il va montrer son visage jusqu'en arrivant au milieu de la tribulation. C'est là où il va faire cesser le sacrifice. Il va dire aux Juifs, maintenant c'est moi Dieu, vous allez m'adorer. Les Juifs, ils vont pas accepter. Dans l'Apocalypse, ils vont être pourchassés aussi pendant toute cette période-là, de la deuxième période de la tribulation. Lui, il va se proclamer Dieu, et puis il va faire la guerre aux saints, et il va ravager en fait le monde. Je laisse un peu de suspense pour que vous reveniez pour savoir la suite. Voilà, mais on a le début de cette semaine où il va y avoir une espèce de paix mondiale, on pourrait dire un pacte qui est fait avec plusieurs, mais ce pacte va être rompu avec certains. Il y en a qui vont rester copains de l'Antichrist, et il va demander au monde entier maintenant, vous allez m'adorer. Derrière, c'est le diable, évidemment, qui sera là. Vous avez déjà vu le grand dragon rouge dans l'Apocalypse, c'est Satan. Hein. Satan, qu'est-ce qu'il a voulu depuis le début ? Prendre la place même de Dieu, carrément. Et là, enfin, il va avoir l'occasion. Enfin, ça ne va pas être très long, 3 ans et demi. Tout ce travail, en fait, pour 3 ans et demi. Quand même, quand on y pense, il a un sacré orgueil et une volonté en même temps. Mais bon. Et pourquoi Dieu le permet, ça, je me pose la question aussi. Mais voilà. En résumé, un petit peu, cette prophétie de Daniel. Donc, accomplissement littéral qui s'est déjà réalisé. Et donc, si je veux maintenant étudier l'eschatologie, si je vais maintenant aller dans l'Ancien Testament, si je vais aller dans le Nouveau Testament, dans l'Apocalypse, je dois accepter que Dieu nous a dit, voilà, quand tu lis la Bible, les choses s'accomplissent de façon littérale. Ça veut dire que tout ce qui ne s'est pas encore accompli va s'accomplir aussi de façon littérale. Je ne vais pas changer ma manière d'interpréter les prophéties. On appelle ça l'herméneutique, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce mot, c'est la façon d'interpréter les textes. Si jusqu'à présent, jusqu'au Messie retranché, on a accepté une herméneutique littérale, littéraliste, on est obligé d'accepter que dans la suite des temps, on va lire la Bible de la même manière, interpréter aussi de la manière littérale ce qui doit arriver. Et ne pas se dire que parce qu'on a peur de se tromper ou parce que on comprend pas les choses, on va se dire c'est peut-être une image de... J'ai entendu des gens qui disent que Jésus va pas revenir, hein. C'est des chrétiens, connus. Mais parce qu'ils ont peur de dire que vraiment Jésus va venir, alors ils allégorisent. Non, il faut interpréter de façon spirituelle. Non, la Bible nous a dit, ça s'est accompli littéralement. La suite va s'accomplir littéralement. Et Jésus va vraiment revenir sur la terre. Il y aura bien une bataille à Armageddon. Il y aura bien un millénium. Ça, on va reparler. C'est cette période après, quand Jésus va revenir, il va régner pendant 1000 ans sur la terre. Ça va ? J'ai été assez simple ce soir, on va pas trop faire, c'est bien, on n'a pas mis trop de temps. Mais je vais quand même avoir quelques petites réflexions avec vous par rapport à ça. Alors, ça on l'a dit. Ah oui, vous avez donc là sur le système les autres périodes qu'on avait vues dans Daniel 12. Donc, 3 ans et demi, donc les 1260 jours qui sont là. Vous voyez mon doigt ? L'ombre, vous voyez le doigt ? Hein, ben, je peux me déplacer avec ça. Donc ici, hein, la deuxième, la période qu'on a vue dans Daniel 12, qui est de 1290 jours, qui commencera au milieu de la tribulation, et encore une période de 1335 jours. C'est là où on a dit c'est peut-être la période où le temple sera purifié, ou alors il y aura les jugements, on ne sait pas exactement ce qui va se passer, mais c'est juste pour avoir une image dans le temps des événements qui vont se passer. Nous, l'Église se situe là. Alors, ça, c'est pas proportionnel, on est d'accord, hein, parce que je ne pouvais pas faire un truc proportionnel, mais nous, on est sous l'alliance de la grâce aujourd'hui, hein, dans la période de la grâce, pardon, et c'est la période de l'Église. Hein, et on verra qu'avant que toutes ces choses-là vont commencer, l'Église va d'abord être enlevée. On va aussi argumenter tout cela. Ce qu'on appelle en fait l'enlèvement de l'Église. Donc, ces petites réflexions, la Bible, par rapport à tout ce qu'on peut lire, le Coran, bouddhisme et tout ça, c'est le seul livre qui est prophétique. Et là, on vient de démontrer la puissance de la prophétie. Ça s'accomplit à la lettre. Alors, il y a énormément d'autres prophéties qui sont données dans la Bible, mais la Bible n'est pas un livre ordinaire. Et si c'est prophétique, ça veut dire que c'est vraiment Dieu qui l'a rédigé. Vous avez déjà pris le temps, parce que moi je suis du genre, je suis un peu pratique, j'aimerais des fois que Dieu m'envoie un SMS pour me dire qu'est-ce que je dois faire dans ma vie ou dans mes choix. Ça serait plus simple, non ? Hein, Dieu dit, voilà, pof. Bon, si vous recevez un SMS de Dieu, c'est pas Dieu, hein, je vous rassure tout de suite. Hein. Par contre, il nous a laissé un SMS géant, on pourrait dire, c'est la parole de Dieu. Dieu me parle au travers de la Bible. Vous avez déjà rendu compte que Dieu vous parle au travers de la Bible ? Alors, est-ce qu'on la prend au sérieux ? Est-ce qu'on la lit ? Est-ce qu'on veut vraiment savoir ce que Dieu veut me dire à moi ? C'est important de lire la Bible. Hein. Les pasteurs, ils disent toujours lire la Bible. Je ne sais pas si je vais, mais moi, souvent. Parce que je sais que vous allez rencontrer qui est vraiment Dieu. Vous allez voir toutes les richesses aussi de cette Bible. Et surtout, ben, c'est Dieu qui s'adresse à moi, qui veut me dire des choses. Hein, vous allez vraiment toujours rencontrer Dieu, voir Dieu, mais Dieu me parle. Et ça, on ne le réalise pas bien souvent. Ah, oh, c'est dur de lire la Bible. Hein. C'est long, c'est compliqué. Ah oui, il y a des fois des choses compliquées comme on est en train de faire ce soir, mais il y a aussi des choses simples. Et avec le temps, avec les années, vous verrez que vous comprendrez de mieux en mieux. Et Dieu ne vous demande pas de tout comprendre d'un seul coup. Hein. C'est comme à l'école. Hein. Vous n'êtes pas allé au bac d'abord et puis vous avez fait la maternelle après. Non, enfin, je ne me souviens pas avoir fait ça. On commence par les choses simples et au fur et à mesure, on plonge tout doucement dans la parole de Dieu. Mais surtout, hein, si vous voulez démontrer que la Bible est différente des autres, c'est un livre qui est prophétique et qui l'a démontré. Il n'y a aucun autre livre qui l'a fait ça. Deuxième réflexion, les prophéties se sont réalisées dans le passé de façon littérale et ça argumente donc pour un accomplissement littéral des prophéties bibliques non réalisées. Vous avez déjà lu Isaïe, Ézéchiel, bon, il y a encore Daniel, il y a tous ces livres ont un tas de prophéties pour Jérusalem, pour les Juifs. Il y a énormément de choses qui ne sont pas encore accomplies et c'est intéressant de les lire et c'est d'aller repérer peut-être ces choses-là et ben, systématiser ensuite notre pensée, voir qu'est-ce qui va se passer pour la ville de Jérusalem, qu'est-ce qui va se passer pour le peuple juif. C'est très riche, très intéressant. Hein. Mais ces choses-là ne se sont pas réalisées pour l'instant, mais elles vont se réaliser concrètement. Il dit dans la Bible que Jésus va régner pendant 1000 ans avec Israël. Il sera alors là, c'est partagé, soit il sera le roi ou alors une co-régence avec David qui va ressusciter aussi. Il y aura des princes juifs qui vont régner là. Il va y avoir un pays qui va être immense. Je ne sais plus si c'est le schéma, mais je pourrais vous le montrer éventuellement. Enfin, il y a des choses qui ne sont pas encore faites. Hein, Israël aujourd'hui est toujours en guerre, mais il est toujours là. C'est le peuple de Dieu, même si Dieu n'est pas d'accord avec ce qu'ils font, généralement, mais ça reste le peuple de Dieu. Et un jour, ben, il va mettre ces choses en place. Pas forcément avec le régime qu'il y a aujourd'hui, mais il y a une partie d'Israël qui va se convertir aussi. Ça, on le verra un peu plus tard. Donc, beaucoup de choses encore à venir, mais qui vont s'accomplir de façon littérale. Donc la réalisation littérale des 69 semaines, ou première semaine de Daniel, ben, soutiennent que cette dernière semaine de Daniel, ce qu'on appelle en fait la tribulation, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce mot, cette période de tribulation va s'accomplir de la façon littérale aussi. Et quand vous lisez Apocalypse, ça parle de cette période de tribulation, et tout ce que vous lisez dans Apocalypse, même s'il y a des symboles, hein, il y a beaucoup de choses à étudier là-dedans, mais toutes ces choses terribles vont s'accomplir sur cette terre. Qui a déjà lu Apocalypse là, en entier ? Quel courage ! C'est gay, hein ? C'est gay, non ? Il y a des morts, il y a du sang, il y a des morts, etc. Mais tout ça va s'accomplir de façon littérale. C'est triste quand on y pense. Mais il faut savoir qu'en attendant, on l'a vu tout à l'heure, Dieu est patient. Et il y a tout le monde, vous pouvez être sauvés. Vous avez le temps encore. quand il arrêtera, c'est-à-dire que je pense que plus personne ne voudra accepter dans sa vie. Mais même dans cette période de tribulation, on verra, il y a encore des gens qui pourront se convertir et accepter Dieu dans leur vie. On n'est pas sauvé seulement dans la période de l'Église, on est sauvé par la foi de tout temps. Mais par contre, ça sera souvent au prix de leur vie. Il y en a beaucoup qui vont se faire décapiter, ils vont être persécutés, mais nous on peut se convertir de façon paisible aujourd'hui, accepter Jésus dans notre vie, mais eux vont souffrir. C'est un peu comme les martyrs au début de l'Église primitive. Et pourquoi il ne veut plus marcher ? Voilà. Donc si nous on croit à la prophétie biblique et aux événements eschatologiques terrifiants, on pourrait dire, qui vont s'abattre sur les hommes, qui vont refuser Dieu, ben moi ça me donne envie, pas de me réjouir pour eux, parce qu'ils vont souffrir, au contraire, ça me donne envie d'évangéliser. C'est ça. Enfin, ça devrait nous donner. Pour moi, l'étude de l'eschatologie, c'est, oui, c'est complexe, c'est l'avenir, mais ça me dit qu'aujourd'hui, je peux faire quelque chose pour aider les gens, enfin, dans le sens où je peux annoncer l'évangile. Et j'ai mis ce texte de Paul, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ. C'est pas rien, ambassadeur. Pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions. C'est pas, on va pas dire, oh ouais, peut-être que tu devrais être converti. Paul supplie, par pitié, acceptez Christ. Au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Parce que lui, il a vu tout ce qui va arriver, et nous-mêmes, en lisant la Bible, on sait tout ce qui va arriver. Donc évangéliser, c'est une mission urgente. Alors, on a notre part, on va proposer Christ, on va proposer de lire la Bible, ils ont leur responsabilité aussi, mais il ne faut pas taire non plus la bonne nouvelle aujourd'hui. Et c'est bien dommage de le faire. Voilà pour cette première partie, j'essaie de rester un peu simple, sinon ça serait un peu trop ardu. Vous avez des questions tout à l'heure, vous pouvez venir me voir si vous voulez. Vous pouvez relire aussi et me revoir demain ou après-demain, il n'y a pas de problème. Je propose qu'on prie simplement pour terminer, puis je te laisse de nouveau la place. Seigneur, merci pour ta parole qui est extrêmement riche quand on prend le temps de l'étudier, et tout particulièrement distincte de tout ce que l'homme a pu inventer parce qu'elle est prophétique. Voyons qu'il n'y a que ta main qui a pu l'écrire et la dicter, Seigneur, et vont nous réjouir parce que nous ne fondons pas notre foi sur rien, mais sur quelque chose d'absolument vrai. Et nous sommes heureux de savoir que tu es un Dieu bien vivant, que tu es un Dieu qui a prédit des choses qui se sont accomplies à la lettre, mais aussi des choses qui vont encore devoir s'accomplir, Seigneur. Merci parce que nous avons pu te rencontrer, mais en étudiant l'eschatologie, nous voulons penser à tous ceux qui ne te connaissent pas et qui se moquent peut-être de toi aujourd'hui, à ce monde qui se croit au-dessus de toi et qui t'ignore, Seigneur. Nous prions et nous supplions, comme disait l'apôtre Paul, que nous puissions vraiment témoigner à quiconque veut bien entendre de toutes ces choses terribles, mais surtout de cette grâce qui est encore disponible aujourd'hui pour celui qui se repent. Merci de nous bénir encore durant cette soirée pour ta gloire, Seigneur, en Jésus-Christ. Amen.